Quand on a parlé à Nathalie, ça a été un de ses gros sujets tantôt. Puis ça fait jaser ben du monde. Là, ce qui se passe, le conflit de travail avec Celdor, c'est toujours triste. Ben, triste. C'est long, un conflit de travail. Ça laisse des traces, des employés syndiqués en grève, tout ça. Mais là, entre les patrons et le syndicat, il y a les poulets, là.
Oui.
Parce que c'est une usine très importante, Saint-Anselme, Exceldor. On s'aperçoit, on connaît pas trop le réseau alimentaire québécois. Hein. On mange, on sait qu'il y a des producteurs, il y en a qui produisent des poulets, puis je m'en vais chez Saint-Hubert. C'est tout. Entre les deux, là, entre Saint-Hubert puis le fermier, on sait pas trop ce qui se passe. Là, tu t'aperçois qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est des gros joueurs. Exceldor est un gros joueur. Et là, vu qu'ils ont un conflit de travail, ben, ça a des répercussions un peu partout. Notamment sur l'assiette. On va en parler avec mon prochain invité. Et les auditeurs s'en ont aperçu. Êtes-vous allé chez Benny? Êtes-vous allé chez Saint-Hubert? Ça paraît déjà, ça a de l'air. Alors, pour les amateurs, qu'importe votre restaurant préféré, là, Saint-Hubert, Benny, mais ça a des impacts sur l'assiette, ça risque encore d'en avoir. Ça a aussi des impacts que beaucoup de personnes dénoncent, dont Nathalie Normandeau tantôt. Là. Il y a 1 million de poulets, poussins, qui auraient été euthanasiés, tués. Là, arrivez même pas avec, ouais, mais ils auraient tué pareil pour, ouais, mais quand tu fais des repas, au moins, ça a une utilité. Évidemment, les véganes vont toujours contester, mais ça a l'air qu'un poulet, c'est 4 repas, là. Hein, Vest, tu nous disais ça hier.
Deux cuisses, deux poitrines.
Hey, ça veut dire que c'est 4 millions de repas qu'on a complètement gaspillés. Alors, tout le monde dénonce un peu ça, etc., mais c'est quoi les enjeux? C'est quoi les, si on essaie de voir du côté du syndicat, qu'est-ce qu'ils demandent du côté des patrons? Sachez, dernière nouvelle, que Jean Boulet a demandé l'arbitrage, la direction a accepté, le syndicat a refusé. Bon. On va aller rejoindre mon prochain invité pour en parler. Il a signé un texte dans le Journal de Québec récemment. En passant, j'ai parlé de lui hier, là. C'est aussi l'auteur de Poutine Nation. Oui. On y en a déjà parlé, puis c'est très bon. Je suis en train de lire ça. Je vous en parle de temps en temps. C'est excellent. Mais là, on va parler du conflit avec Sylvain Charlebois, qui est professeur à l'Université Dalhousie. Monsieur Charlebois, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est triste un peu ce qui arrive là-bas. Vous avez un bon point dans votre texte. Vous rappelez comment tout le Québec s'est ému pour quelques bambis. Là, je veux pas embarquer dans ce sujet-là, il est tellement touché, mais c'est vrai que les bambis à Longueuil, ça avait ému tout le monde. Puis là, on dirait que on peut tuer 1 million de poulets inutilement pour rien.
Ouais, non, c'est une drôle de société hein, dans laquelle on vit. Là. C'est 1 million de poulets... Vous savez, c'est déjà arrivé par le passé, mais ça n'a jamais été clair. Cette fois-ci, avec le conflit de travail, on apprend des choses. On apprend que notre filière avicole a des faiblesses. Malgré la gestion de l'offre, malgré notre système de quotas, malgré le fait qu'on a de belles coopératives au Québec, nos producteurs sont bien supportés, sont compensés, tout va bien, mais on est toujours à un conflit près de voir un massacre. Puis j'appelle ça un massacre parce que c'est ça qui se passe à Saint-Anselme. Là, c'est 1 million de poulets. Au détail, là, on parle d'une valeur entre 10 et 40 millions de dollars de bouffe.
Gaspillé.
Donc, si vous allez à l'épicerie, là, on vient de sacrifier là, 10 à 40 millions de dollars de bouffe, là.
Bon, remontons en arrière un peu. On va essayer de comprendre les enjeux derrière ça pour les gens qui nous écoutent. Du côté du syndicat, qu'est-ce qu'on réclame? C'est quoi les demandes? Puis il faut aussi regarder aussi pourquoi ils demandent ça, les conditions de travail. Comment on en arrive à ce conflit-là?
Ben, en fait, du côté du syndicat, on demande ce qu'on mérite. Je vais vous avouer, là. Okay. Je suppose que j'avais déjà travaillé dans une usine de transformation, là. C'est pas beau, là. C'est pas, ce sont pas des conditions de travail idéales. Donc, c'est 40 % sur 3 ans. 40 % d'augmentation.
Okay, c'est beaucoup.
Sur 3 ans. Donc, on vise le 25 $ de l'heure, là, à peu près, là.
OK. Mais selon vous, c'est mérité?
Oh, oui, okay. Pleinement. Okay. Oh, oui, absolument. Parce que, bon, le recrutement à Saint-Anselme, en région, essentiellement, c'est difficile. Actuellement, il y a 7 000 postes vacants en transformation alimentaire au Québec. Pourquoi? Parce que le recrutement est difficile, les conditions de travail sont pas faciles et les salaires sont pas très élevés. Alors, ce que le syndicat envoie comme message, ben payez-nous adéquatement pour qu'on puisse régler le problème de recrutement. Alors, c'est pour ça que je dis que eux méritent ce salaire-là. Par contre, ouais. Du côté de la gestion, je peux comprendre très bien pourquoi eux s'inquiètent, parce que il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge du tout. Payer 25 $ de l'heure, ces gens-là, je pense pas qu'Exceldor arriverait. D'abord, Exceldor est une coopérative dont les membres sont des producteurs avicoles. Ce sont les gens qui, justement, euthanasient les poulets. Vous voulez, vous voyez où, ce que où je m'en vais, là? La gouvernance de la filière, là, est déjà un problème parce que il y a plusieurs conflits d'intérêts. Il y a un qui supporte l'autre et, évidemment, avec ce qui se passe avec l'euthanasie, là, les agriculteurs n'ont pas aucun incitatif à cesser la grève parce qu'ils sont compensés par le système qu'on a actuellement. Exceldor va perdre de l'argent, évidemment, mais en gros, il n'y a pas vraiment intérêt à régler immédiatement. C'est pour ça qu'actuellement, Exceldor a les moyens de pousser et le syndicat aussi.
Et si jamais on leur donnait, là, vous dites la marge n'est pas grosse, si jamais on donnait 25 ou on augmentait leurs conditions de salaire, est-ce que cette augmentation-là va se répercuter sur la facture du client qui s'en va chez Saint-Hubert ou chez Benny? Il y a des auditeurs qui nous disent déjà qu'ils ont marqué des hausses, là. Alors, est-ce qu'en bout de ligne, le consommateur pourrait payer les frais de ce conflit de travail-là?
Alors, bonne question. Depuis janvier, ce qu'on apprenait aujourd'hui par le biais de Statistique Canada, le poulet a augmenté de 8 % cette année, là, depuis cinq mois.
Okay.
Déjà, là, sans le conflit. Le conflit va simplement, va créer une situation qui va être pire que ce qu'on vit actuellement. Le comptoir des viandes est un problème pour tout le monde. Tout coûte plus cher. Et j'ai l'impression que le conflit avec Exceldor va simplement contribuer à l'effet inflationniste qu'on voit au comptoir des viandes actuellement. Donc, quand on affecte le poulet, qui est vraiment la protéine la moins chère, ben c'est certain que le porc et le bœuf vont être affectés parce que les trois types de viande se compétitionnent l'une contre l'autre. Okay. Fait que vous voyez, le conflit d'Exceldor peut avoir un impact inflationniste sur l'ensemble de l'œuvre au comptoir des viandes, pas juste pour le poulet, là.
Et ça risque d'avoir de l'impact. D'ailleurs, dans votre livre Poutine Nation, vous le rappelez qu'un des facteurs qui fait en sorte que la poutine a été populaire, c'est le prix, c'est que c'est accessible, pas cher. Vous dites que c'est toujours important quand on parle d'un aliment, le prix. Alors, est-ce que pour les restaurants, pour le consommateur, est-ce que ça pourrait avoir des impacts à long terme sur la consommation de poulet?
Absolument. Puis dans le cas de la restauration, c'est pire, je pense, parce que c'est pas une question de prix, c'est aussi une question d'accès.
Ouais.
Pas mal convaincu que certains de vos auditeurs qui ont été soit dans un magasin ou au restaurant, puis ils se sont fait dire qu'il y a des quantités limitées déjà. Surtout en restauration, c'est ce que le conflit va faire. Mais comme on dit en bon français, attachez vos culottes, ben c'est pas fini, là. Il y a Exceldor aujourd'hui, là. Mais demain, il va y avoir probablement d'autres usines qui vont où les syndicats vont demander des augmentations de salaire parce que on le voit là. Et le système est en train de briser simplement parce que les salaires sont pas là. C'est pour ça que depuis quelques jours, je martèle le message de l'automatisation, de la robotisation, parce qu'on n'aura pas le choix.
Est-ce que ça peut...
Les robots tombent pas malades.
Ouais.
Et essentiellement. C'est important de justement d'assurer la viabilité de la filière au complet par le biais de la transformation. Puis là, actuellement, c'est notre point faible.
Ouais, je le disais tantôt en introduction. Nous autres, on connaît les producteurs, les fermes. Ça, c'est un monde qu'on connaît un peu. Puis l'assiette. Entre les deux, il nous manque un bout d'information. On découvre que des usines, il n'y a pas tant que ça. Il y en a une qui tombe en grève. Ça a des impacts partout. Tous ces milieux-là de transformation alimentaire ou abattoir, c'est le monde agricole, dit qu'on le connaît. Pas toujours, mais quand même, un petit peu.
Mais je vais vous dire une chose, par exemple, qui est importante pour vos auditeurs. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis nous ils se disent ben ça c'est pas vraiment mon problème, ce sont des producteurs, c'est la transformation, moi j'aime pas trop le poulet. Attendez un instant là. Depuis avril, la ministre de l'Agriculture du Canada annonçait au mois d'avril dernier qu'on offrait un programme de compensation aux producteurs de poulet à travers le Canada, incluant le Québec. Chaque producteur de poulet au Québec reçoit des contribuables québécois, 122 000 $ par année pour les 10 prochaines années, en guise de compensation des traités de libre-échange qu'on a signés avec les États-Unis et avec l'Europe. Autrement dit, ce que j'essaie de vous dire, là, c'est que le poulet qu'on brûle pour rien, là, ben, on a payé pour ce poulet-là en partie.
Oui, on a déjà compensé, je comprends. On a déjà compensé les agriculteurs là-dedans. Est-ce que ça peut ouvrir la porte? Vous avez parlé de traité de libre-échange, ça m'ouvre la porte pour la prochaine question. Si la filière du poulet, ou même il peut y avoir des impacts autour également, si ça tombe ou c'est ralenti ou affecté, est-ce que la concurrence étrangère pourrait en profiter?
Ben, il y a des quotas à l'importation.
Ouais,
on importe déjà pas mal. On en importe de plus en plus. C'est sûr qu'on va manger du poulet d'ailleurs, mais il y a des quotas. Et si, par exemple, je sais pas, moi, il y a un importateur en raison de la gestion de l'offre, là, si, je sais pas, moi, Provigo décide d'acheter du poulet des États-Unis, ben, il y a des quantités limitées. Ils ont un quota limité pour le faire. Au-delà de ça, il doit payer des tarifs de 200 à 300 %
OK, donc c'est pas de là que va venir la solution. Espérons qu'ils vont réussir à s'entendre, qu'à un moment donné, le gouvernement va s'en mêler un peu. Je sais pas, en terminant, je sais qu'on n'a pas de boule de cristal, c'est difficile, ça devient un enjeu politique et autres. Mais voyez-vous une solution à court terme au problème?
Ben, moi, je suis d'accord avec votre ministre de l'Agriculture. Une trêve, ce serait important.
Oui, au moins, là.
Mais je pense pas. Il y a tellement une division entre les deux parties, là. C'est pas et ce que j'ai peur, c'est que ce n'est que le début. T'sais, il va y avoir d'autres usines qui vont faire des revendications, puis il faut être prêt pour ça, là.
Alors, ça risque même d'affecter aussi, M. Charlebois, en terminant, la galvaude. Hein? Parce que la galvaude, en termes de poutine, est faite à base de poulet. Vous le rappelez dans votre livre.
Je suis tellement heureux d'entendre parler que vous lisez mon livre, parce que j'ai mis beaucoup de moi là-dedans. Hein? Puis moi, je viens des cantons de l'Est, puis j'ai rencontré Ashton Leblond dans mon livre. Je sais pas si vous êtes rendu là durant l'entrevue que j'ai faite avec Ashton Leblond. J'ai tellement de respect pour ce gars-là. Là. Non, mais j'ai appris tellement sur le Québec, sur l'histoire. Puis la poutine est une histoire rurale des campagnes qui a envahi le monde. C'est une belle histoire, la poutine.
Ouais, puis c'est un peu l'histoire du Québec aussi, puis du Canada, puis notre rayonnement à l'étranger, puis effectivement,
absolument,
on traverse tout ça. J'invite les auditeurs à se le procurer. Sylvain Charlebois, merci beaucoup de nous avoir parlé.
Au revoir.
Bonne journée, 16h40. C'est une excellente lecture de vacances. C'est léger, là. Quoique la poutine ne l'est pas toujours, là, dépendamment. Mais non, c'est le fun. Il y a l'histoire de la poutine, puis il y a aussi... Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et une des choses fascinantes, c'est à quel point il y en a plus que je pensais à l'étranger. Et je me pensais un peu cave, mais non. Au Québec, la poutine, on pense que c'est notre mère, nous autres. T'sais? Mais au Canada anglais, c'est l'inverse. Ils sont fiers de voir la poutine partout dans le monde, puis ils l'exportent parce que c'est canadienne, puis
selon
un peu approprié. Je sais, Karen, mais on a plus la vision d'un mets local de la poutine au Québec, alors qu'au Canada, c'est plus notre patente, mais qu'on envoie partout ailleurs. Parce qu'il y en a vraiment partout, de la poutine, aux États-Unis.
Jusqu'en Nouvelle-Zélande.
Canada anglais, etc. Il y a chaînes. Moi, je savais. Je pense que les Québécois sont peut-être moins au courant que les Canadiens qu'il y en a vraiment partout.
Ça avait créé une petite commotion à Toronto il n'y a pas longtemps. On avait parlé
avec
la casquette des Blue Jays. Une version spéciale d'une casquette des Blue Jays où il y avait différents logos particuliers qui rappelaient, je ne sais pas, des endroits importants au Canada, je ne sais pas trop.
Des symboles canadiens, un castor.
Et il y avait une poutine sur la casquette des Blue Jays.
Mais Smoke's Poutinerie, connais-tu ça? C'est une chaîne, honnêtement, à Toronto.
Non,
il y en a full, là. Il y a de la poutine partout à Toronto.
Quand j'étais là, il n'y en avait pas.
Ah non, il y en a, ils ont fait la poutine dans le livre de Sylvain Charlebois, la plus chère au monde. Elle était faite par Smoke's Poutinerie.
Ah oui?
Ouais, elle coûtait 800$.
Puis qu'il y avait quoi dedans?
Il y avait de la truffe. La truffe, ça peut valoir très cher. Il y avait du homard. Il y avait du...
caviar?
Le reste, toutes sortes de patentes. Ils ont, pour le fun, ils ont produit la poutine la plus chère au monde.
J'espère juste que c'était pas avec du fromage râpé.
Non, il faut que ça soit en grain.